Pour Claude Lafleur, des décisions stratégiques sont incontournables pour qui veut assurer la pérennité d'une entreprise porcine. Il faut être capable de bien lire les signaux du marché. Il faut être bien formé, être curieux, ouvert et vaillant, choisir un modèle d'affaires performant et bien planifié, longtemps à l'avance, le transfert de l'entreprise. Rien de tout cela n'est farfelu si l'on considère les centaines d'abandons de la production ces dernières années.
Moi, je suis de l'école qui pense que les grandes tendances et fondamentaux sont solides, mais que la volatilité est extrême et elle va l'être de plus en plus. Mais les fondamentaux de la demande sont bons.
Que l'on choisisse la production indépendante, l'adhésion à un groupe comme la coop, ou encore que l'on produise strictement à forfait, l'important est de performer.
La conception du modèle d'affaires, qui est la clé de la prospérité du déclin, c'est de concevoir un modèle d'affaires qui fonctionne. Et ça, pour vous autres, c'est peut-être la question la plus difficile. Quel modèle utiliser? La logique des affaires, avec l'intelligence de combiner les ressources pour générer du cash. La logique d'être en affaires, c'est générer du cash. C'est comme la logique de la vie. Je lisais ça récemment, un livre sur la vie. La vie, essentiellement, ce qu'elle veut faire, c'est se reproduire. Ça ne peut pas se reproduire, la vie n'existe plus. En affaires, c'est faire du cash.
Claude Lafleur note que le secteur porcin fait face constamment à l'acceptabilité sociale. Il est par ailleurs influencé par diverses tendances de marché ou simplement de marketing.
Je note aussi une certaine bifurcation de la demande vers des produits dits sains, dits non industriels, qui causent une certaine tension dans le système. Les consommateurs, on le dit, par sondage, disent souvent, ils recherchent des produits sains, nutritifs et abordables. Et ce sont des militants qui affirment ça beaucoup, mais les sondages sont clairs aussi. Le facteur le plus important pour le consommateur, c'est les prix. Alors, on nous dit constamment, je suis pour les produits sains, non industriels, etc., mais le marché bio ne représente que 3 %. Donc, les consommateurs, vraiment, la priorité, c'est le prix. L'expertise aussi, maintenant, des amis, des gourous, parle plus que l'industrie, que la publicité et même que la science. Pour les éleveurs de porc qui sont à la recherche d'acceptabilité sociale, l'irrationnel est devenu un facteur de risque élevé. Le marché bio, l'agriculture de proximité sont en expansion, deviennent de plus en plus populaires. C'est encore marginal à 3-4 %, mais il y a un engouement certain et l'industrie écoute. On la voit s'engager plus ou moins maladroitement dans ce chemin, plus que par marketing que par conviction, mais elle s'engage. Les grandes chaînes de restaurants, certains détaillants, sont pour les cages enrichies, non OGM, sans antibiotiques, et cette tendance est lourde. Et elle ajoute au coût de production sans nécessairement générer un prix plus élevé pour les producteurs. Bref, il y a une confiance plus fragile des consommateurs envers notre agriculture. Et malgré les progrès considérables de l'agriculture qu'on a fait depuis des années, l'agriculture conventionnelle, avec ses pesticides, ses herbicides, ses engrais chimiques, son odeur, est pointée du doigt, même si elle est encore solide, parce qu'elle est productive et abordable.
Dans le contexte global où elle se retrouve, la production porcine doit obligatoirement se moderniser.
L'ennemi, le cauchemar, ce n'est pas la Fédération, ni Olimel, ni Ménard, ni la Kinac. Notre cauchemar, ce sont les compétiteurs comme les Américains, les Allemands, les Espagnols. Et le Québec est trop petit et trop unique pour se permettre un climat de méfiance et de suspicion. Il est conscient du moment de transfert et de la sortie. On se prépare même jeune, surtout quand on est jeune, au transfert et à la sortie. On a la vieillesse de notre jeunesse. La relève est souvent dans le giron familial, en majorité. Alors, on veut transmettre, évidemment, dans le meilleur état. L'objectif étant ultime de transmettre la ferme dans un meilleur état qu'on l'a prise. Mais je sais maintenant, clairement, que la relève ne travaillera pas pour un modèle d'affaires dépassé. Elle travaillera pour une entreprise moderne et offrant un potentiel élevé. Dans le transfert des entreprises, il va y avoir deux phénomènes incontournables. Le premier, c'est le changement de valeur, globalement. Il y a plus de différence maintenant entre moi et mes enfants que moi avec mes parents. Les valeurs changent. La possession. J'ai été élevé dans l'idée qu'on devait posséder. Posséder une maison, posséder une belle voiture, posséder des disques partout dans la maison. J'ai été élevé comme ça, mais dans un milieu extrêmement modeste. Les enfants ne réagissent pas comme ça. Les entrepreneurs nouveaux que je vois à Montréal, la possession n'est pas importante. Les livres, la musique, les outils, les cassettes, il n'y en a pas. Ça se fait sur l'accès. Ce qui est plus important pour eux, c'est l'accès. Pose une question aux jeunes agriculteurs. Est-ce qu'on doit acheter des terres? La terre est fondamentale pour l'agriculture. Ça a toujours été un point de discussion forte. C'est ma terre, il n'y a personne qui va m'enlever ça. Mais dans un changement de culture, la terre, quand on y pense, c'est un fardeau d'endettement très, très long, pendant 30 ans, qui nous empêche d'investir dans toutes les autres technologies. De faire de l'agriculture de production, on fait de l'agriculture de rente. Alors ça, cette question-là, elle est fondamentale. Vous allez dire, mais ça prend de la terre. Il y a des modèles collectifs. Pangea n'est pas un modèle que je souhaite pour nous, mais une organisation collective qui achète la terre et qui la loue aux producteurs est peut-être une solution au taux d'endettement qu'on a et cette idée-là de possession. Autre valeur aussi importante, la qualité de vie. Les 16 jours par semaine, vous avez tous des enfants, peut-être, ceux qui sont les plus vieux. La qualité de vie est importante. C'est une priorité au bien-être, à la famille, autant de qualité. Le partage des connaissances aussi. Le partage des connaissances n'est pas vu comme un rapport de soumission. C'est vu comme une richesse pour l'ensemble des partenaires qui travaillent ensemble. La technologie, plus que la concurrence, plus que les politiques agricoles, plus que le prix du marché, bouleverseront les structures de ferme. Automatisation, tâches répétitives vont disparaître. Robotisation, force physique beaucoup moindre. Décision assistée, précision et prescription grâce au big data, à la géolocalisation, les algorithmes aussi. Dans les dernières années, les bilans se sont assainis, moins endettés. Il n'y a pas eu vraiment de remise en question du modèle d'affaires dans les dernières années, j'en s'entends. Ce sera une autre affaire pour les prochaines années parce que les bâtiments, les équipements ont vieilli, on le dit souvent, et la décision va être angoissante. Est-ce qu'on doit réinvestir massivement? Est-ce qu'on met à risque l'équité, le vieux gagné? Et c'est la question qui est au cœur de ce colloque-là et à laquelle vous seul avez la réponse. Je termine avec un certain nombre de certitudes. Le secteur porcin mondialement n'est pas en déclin. Il est porteur. Ça nécessite des investissements, bien sûr, une expertise. Nous avons un climat nordique qui peut être avantageux pour nous, qui est intéressant. On a encore un soutien gouvernemental qui peut être potentiellement intéressant. Ça reste un secteur à risque énorme. Il y a une transition aussi, j'appellerais ça la transition de la filière porcine à une plateforme 2.0. Vous connaissez peut-être Uber. Uber, c'est le plus gros opérateur de taxi au monde. Il n'y a pas un seul taxi. Et c'est vraiment simple pour le client. Facile avec le téléphone, paiement automatisé, sécuritaire, propre. On peut même évaluer sur le champ de service. Même chose avec Airbnb. On peut louer une chambre partout dans le monde et ces gens-là ne possèdent aucun hôtel. C'est une plateforme. Je vous suggère qu'en agriculture, Uber, là, puis Airbnb, toutes ces grandes plateformes-là, parce que c'est ça, nous avions en agriculture des plateformes 1.0. Les plans conjoints, l'UPA, les coopératives, ce sont des plateformes qui permettent la relation entre les acheteurs et les producteurs. Peut-être que dans les années qui viennent, on devra migrer de cette plateforme-là qui était avant-gardiste il y a 10, 15, 20 ans à une plateforme 2.0 similaire avec les technologies comme Uber et Airbnb. Mais voilà la fin du rôle de l'État. Je ne veux pas passer ça sous silence. 22 000 emplois en région, en exportation. Ça prend une politique agricole solide pour les producteurs porcins. Agricole qui vient appuyer la prévisibilité par l'assurance stabilisation, qui vient appuyer les exigences des coûts de production statutaire. On vous demande toutes sortes de choses. Il faut que le gouvernement soit proche. Surtout avec un gouvernement Trump qui risque de laisser passer pas mal de choses dans l'environnement. Si nos gens continuent à exiger de nous des critères environnementaux très, très élevés, puis qu'on est en compétition contre les Américains de Trump, ça se peut qu'on se fasse débarquer du marché. Donc, la société devra aider d'une certaine façon cette transition temporaire, on l'espère, vient faciliter le crédit, appuie les infrastructures. Un gouvernement doit appuyer les infrastructures, non seulement avec les ponts, les routes, mais aussi avec les bandes passantes, parce que la technologie va passer par les bandes passantes, et d'encourager aussi la diversité des modèles.
Ici Lionel Levac. Produire du porc aujourd'hui est une activité technologique, pourrait-on dire, à l'image de la société en général d'ailleurs. Refuser d'utiliser les outils modernes serait une grave erreur. Cependant, ces outils ne doivent pas diluer, mais bien soutenir les valeurs chères à la société, que sont par exemple le bien-être animal et le respect de l'environnement.